En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 20 novembre 2006, dans le cadre de sa séance publique annuelle, l'Académie des sciences morales et politiques a rendu public le palmarès des prix et médailles qu'elle a décerné au titre de l'année 2006. La séance solennelle fut introduite par un discours d'André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de cette même académie en 2006, et par ailleurs président de l'Institut de France. Sa communication est consacrée aux questions d'actualité sur la justice en France. André Damien, grand juriste, avocat, dresse le bilan des séances tenues par son académie chaque lundi sur le thème large de la justice dans le cadre de son thème annuel de réflexion. L'an dernier, le thème en était l'Europe. 2006 est consacré à la justice et en 2007, santé, médecine et société sera le thème retenu des académiciens des sciences morales et politiques. Vous pourrez entendre dans cette émission le début de la lecture du palmarès par Lucien Israël, vice-président de l'Académie, médecin et cancérologue, élu en 1996 à la section de morale et sociologie. Et vous pouvez retrouver l'intégralité du palmarès sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Enfin, vous pourrez entendre le discours du secrétaire perpétuel Michel Albert, consacré à la France et la mondialisation. Retrouvons de ce pas les 5 secrétaires perpétuels, les académiciens, les lauréats et les invités, parmi lesquels le garde des Sceaux Pascal Clément, Roland Dumas, ancien garde des Sceaux, le général Patrick Touverez, inspecteur général des armées, le cardinal Monseigneur Torrent et de nombreux ambassadeurs. Sous une coupole bien occupée, retrouvons le son des tambours qui annonce l'entrée sous la coupole des académiciens et qui s'arrête lorsque le dernier académicien a pris place.
Monsieur l'inspecteur général des armées, monsieur le maire, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames, messieurs, mes chers habits. Le monde est imparfait. La mort en est le premier signe, elle qui a frappé notre académie à plusieurs reprises au cours de cette année. Nous avons en effet quitté en 2006 le philosophe et islamologue Roger Ardaldez, dont les travaux sur l'islam ont inspiré d'ailleurs documenter le discours du Saint-Père, notre confrère si éminent, à Ratisbonne. L'économiste Pierre Patabatoni, le grand résistant et ministre Raymond Triboulet, qui fut le premier sous-préfet de la France libérée à Bayeux, et le grand géographe Pierre Georges, auquel il faut ajouter encore François de Ziegler, ancien ambassadeur de la Confédération helvétique en France et qui était correspondant de notre académie. Le travail des hommes vise à réparer les outrages du temps et les imperfections du monde, ainsi à la peine que représente pour chacun d'entre nous la perte de ses confrères, s'associe inévitablement une espérance, celle de faire entrer dans notre compagnie un sang nouveau. Nous ont ainsi rejoint 2 membres titulaires qui évoqueront dans les prochains mois la mémoire d'Alison Echeyté et celle de Bruno Neveu. Il s'agit de messieurs Pierre Mazot et Xavier Darcos qui prennent déjà une part active à nos travaux. Monsieur Jean-Claude Juncker, enfin Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, a été élu associé étranger et sera reçu ici même en 2007. Cette peccabilité du monde se retrouve au cœur de nos travaux de l'année. Il y avait bien des moyens, en effet, de traiter de la justice, à commencer par le biais philosophique, le plus inconfortable. Qu'est-ce que la justice? Quels en sont les fondements? Qu'est-ce qu'un monde juste? Toutes ces questions sont intéressantes et peut-être, d'ici quelques années, un autre de mes confrères qui me succédera à cette place décidera de se les poser et de nous les poser. On aurait pu imaginer également de traiter de l'injustice réelle ou perçue comme telle. Les approches historiques et anthropologiques pouvaient également se révéler pleines d'enseignements. Pour ma part, j'ai décidé de limiter le sujet à l'étude du système judiciaire. Qu'est-ce à dire ? Parce que les méchants existent dans ce monde, pour reprendre le vocabulaire évangélique, les groupes humains ont organisé des mécanismes de régulation de leurs conflits inévitables. Des systèmes se sont mis partout en place, de nature privée ou publique, religieuse ou profane, pour assurer la paix sociale. Mais partout, le principe de base est le même. La délégation par les parties en présence du soin de régler leurs conflits à un tiers jouissant d'une autorité suffisante pour lui accorder sa confiance. La justice sans la force n'est que chimère. Il faut bien que l'arbitre choisi soit investi de la force nécessaire pour faire respecter son arrêt. C'est ce qu'avait noté Blaise Pascal, sur la pensée duquel notre confrère Jean Ménard, le spécialiste de Pascal et de Port-Royal, a fait une si brillante communication au début de cette année. Tel est donc le principe, un monde imparfait où fleurit le mal et qui tente d'y remédier par la mise en place d'institutions qui, à leur tour, malheureusement, ne peuvent entièrement échapper à leur nature mondaine et donc au mal même qu'elles doivent combattre. Si en tant que vertu la justice vise la perfection, en tant qu'institution, elle n'est que la somme d'efforts continus pour répondre au mieux aux besoins de la société qui l'a mise en place, mais ne peut pas aspirer à la perfection qui n'appartient qu'à Dieu. C'est donc loin des cieux éthérés que devait se dérouler notre année de travail. Je ne savais pas à quel point, je ne pouvais pas m'imaginer il y a 2 ans qu'une fois encore notre compagnie se retrouverait à mener ses travaux en phase aussi directe avec l'actualité. Je dis bien une fois encore, car un phénomène analogue s'est produit lorsque j'ai accepté en 2003, à la demande de notre secrétaire perpétuel, de coordonner avec Jean Tullard, les manifestations du centenaire officiel de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État que le Premier ministre venait de confier à notre compagnie. J'accepte par temps calme, et aussitôt une tempête se lève, une nouvelle affaire du voile islamique, un débat acharné qui s'empare de toute la société pour aboutir au vote d'une loi. Le hasard fait que la même aventure m'arrive avec la justice. En choisissant d'étudier le système judiciaire français, je faisais le choix d'un sujet classique s'il en est, au point que je craignais même à l'époque de lasser l'auditoire académique. Par l'intérêt, le peu d'intérêt du sujet. Je ne dis pas par les communications qui, ça c'est une autre question. Survint alors le tsunami provoqué par l'acquittement en appel de la plupart des accusés de la tour du renard, la repentance des pouvoirs publics, l'audition télévisée du petit juge par une commission d'enquête parlementaire perçue par l'opinion comme le tribunal du peuple. Un projet de réforme du système judiciaire dont certains auraient souhaité qu'elle mette à bas tout le système, plus de parquets, plus d'instruction, plus de juges, des jurés. Enfin, et dans votre grande sagesse, monsieur le garde des Sceaux, vous avez décidé de limiter ces réformes aux avancées indispensables susceptibles de répondre aux craintes de nos concitoyens. Et avec cette intelligence propre aux vrais politiques qui se souviennent que la justice n'est pas faite d'abord pour les juges, même pas pour les professeurs de droit ni les avocats, mais qu'elle est faite pour le peuple souverain. Ceux qui ont fini par oublier parfois, tant nos querelles personnelles sont sympathiques et nous tiennent en haleine. Je souhaiterais tirer 2 conclusions de ce préambule. La première est anecdotique. Le sort s'acharnerait-il sur moi en mettant brusquement sous les feux de l'actualité tout sujet que j'aborderai ? Lorsqu'à la fin de cette année civile, je quitterai la tribune de l'Académie et à tout jamais, d'après le calcul des probabilités, il faudra attendre 20 ans pour que ça revienne, et dans 20 ans, je ne sais pas où je me trouverai. J'ai peur de me retrouver en enfer, tellement ma langue est peut-être parfois tordue, et que je retrouve mes travaux de prédilection, c'est-à-dire, comme chacun sait, la phaléristique, qui est la science des décorations. Le mot ne figure pas encore au dictionnaire de l'Académie française, mais ça, il est nécessaire, car il faut distinguer l'art de la décoration, décorer une pièce, décorer un salon, du port des décorations, et je peux dire que sur le plan sémantique, ma formation de phaléristique est parfaitement justifiée et exacte. Donc, est-ce que nous allions avoir un débat national sur la phaléristique, comme on l'a eu sur la loi de 1905 ou sur la justice ? À moins qu'il y ait un nouveau scandale des décorations. Mais non, là je suis rassuré, le Conseil de la Légion d'honneur veille avec tant de soin sur nos ordres prestigieux français qu'il n'y a aucun danger. À moins que le mauvais sort, ne s'attache à l'Académie elle-même. Auquel cas, et par forme de plaisanterie, je vous adjure à la plus grande prudence. Mon successeur, pour l'année prochaine, monsieur le professeur Lucien Israël, a choisi comme thème de son année santé, médecine et société. De là à ce que nous connaissions et de crise sanitaire, une endémie, je vous ai en tout cas prévenu. Mais, je vous rassure, le pire n'est pas toujours sûr. Ma seconde conclusion est un tout petit peu plus sérieuse. Que ce soit en 2005, en traitant de la laïcité, ou en 2006, en traitant de la justice, notre compagnie sera parvenue à mener ses travaux dans la sérénité et dans le respect du pluralisme des opinions, en dépit de la violence qui parfois est la marque des débats publics. C'est là le génie de notre institution, le Parlement des savants, dont l'Académie des sciences morales est une des ailes. Cette institution est pleine de sérénité. D'abord, grâce à la qualité de nos communications, qui ont été toutes les semaines prononcées devant nous, et au nom de tous mes confrères, je tiens à remercier tous les orateurs, qui sont nombreux à être aujourd'hui parmi nous, d'avoir su, au fil des séances, orienter notre réflexion sur des chemins fructueux. Je tiens également à remercier tous mes confrères, qui, par leurs interventions et leurs questions, parfois hardies, mais toujours opportunes, ont permis des approfondissements nécessaires, et à nos zélés collaborateurs, au premier rang desquels Pierre Kerbras, qui nous ont aidés à mettre en place cette année académique. Et je ne saurais l'oublier, je tiens à vous remercier personnellement, monsieur le garde des Sceaux, des marques de confiance que vous avez su nous manifester, notamment en acceptant de venir exposer devant nous les conclusions que vous tiriez des travaux de la commission parlementaire dite d'Outreau, quelques jours seulement après qu'ils aient été rendus publics. Votre présence renouvelée aujourd'hui nous touche et nous honore. Pour préparer ce discours, j'ai tenu, et c'était nécessaire, à relire tous les textes qui ont été soumis à notre réflexion. Je ne pourrais bien entendu, dans le temps qui m'est imparti, vous en restituer ni la richesse, ni même les contradictions, ce qui est plus riche encore. De toute façon, je ne peux pas vous les redire, puisqu'il nous faudrait 5, 10 heures, 20 heures. Je me bornerai à quelques méditations sur l'actualité du débat judiciaire qui m'ont été inspirées par cette base d'intelligence que nous avons pu sonder et qui était sans fond, tellement elle était profonde. Premier thème, justice et société. Depuis la Révolution, la justice est rendue en France au nom du peuple français, dans lequel réside tout le principe d'autorité et de légitimité. Comment donner un corps réel à cette abstraction ? Les premiers qui se sont posé la question, puisqu'avant la présence du roi suffisait à la résoudre, sont les révolutionnaires. Dès la chute du roi, ils furent embarrassés, au moins sur cette idée de justice. Comment représenter le peuple ? Comment l'associer plus directement au jugement ? Nous avons la chance, ou la malchance en France, d'avoir un repoussoir qui nous sert, c'est la justice de 93. Les réquisitoires de Fouquier-Tinville, qu'a stigmatisé Anatole France dans Les Dieux ont soif, où l'on voit Évariste Gamelin, juré du tribunal révolutionnaire, peintre sans client, incarner l'exalté dangereux, mais pur, désintéressé, honnête. Je dois dire que ce sont les plus à craindre parmi tous les exaltés. Ce sont les honnêtes. Les autres, on peut toujours s'en tirer. Notre confrère Henri Amouroux a bien voulu illustrer pour nous, dans sa première communication de l'année, un avatar honteux de cette justice du peuple, rendue par le peuple, et particulièrement par les victimes, qui s'est déroulée en 1944. L'anarchie règne dans le pays dont les rênes n'ont pas été encore repris totalement par le général de Gaulle, malgré la présence d'un sous-préfet prestigieux arrivé en cavalier premier à Bayeux, notre ami Triboulet, dont j'évoquais la mémoire il y a un instant, l'anarchie règne dans le pays, et au nom du peuple souverain, des milices armées condamnent et exécutent des accusés que la foule a livrés, en prenant bien soin que le nombre de morts décidés coïncide avec le nombre de cercueils commandés. Rendus par le peuple, ou par ceux qui s'en désignent unilatéralement les représentants ou les interprètes, cette justice a toujours été expéditive et finalement totalement injuste. La justice du populaire rendent les victimes est toujours une justice inférieure et à rejeter. Alors, pour représenter le peuple, l'expérience révolutionnaire a substitué au groupe informel de repus de nantis qu'était la parlementaire, le jury populaire. Monsieur l'avocat général Philippe Bilger nous en a parlé avec beaucoup de science et de talent. À première vue, le dispositif paraît des plus critiquables. En quoi des femmes et des hommes tirés au sort seraient-ils particulièrement aptes à juger leurs contemporains ? Et pourtant, de toutes les institutions judiciaires, la Cour d'assises est certainement la seule à ne pas avoir été mise en cause dans la crise récente. Au contraire, lorsqu'éclata le scandale d'Outreau, nul ne mit en cause le jury de la première Cour d'assises, pas plus d'ailleurs que celui de la seconde, dont certaines conclusions étaient contradictoires. C'est là le paradoxe, le français aime le jury, il faut bien le reconnaître, tiré au sort et par là même dans lequel l'élément d'incertitude de la décision est important. Monsieur Bilger nous a, sans en sous-estimer les défauts, exprimé son attachement d'avocat général près la Cour d'assises de Paris à un jury populaire qui n'est pas aussi manipulable que l'on pourrait le craindre, ni par les juges, comme il était d'usage de le dire, c'est pas vrai, les juges doivent respecter le sentiment des jurys, sinon ils perdent la direction du procès, ni même par les médias, qui ont pris cependant dans les affaires judiciaires exposées au grand public une place de plus en plus importante. Alors, pour protéger les jurés, les Britanniques interdisent à la presse de parler des affaires avant que le jugement ne soit rendu. Les Américains, quant à eux, isolent totalement les jurés de tout contact extérieur. Est-ce utile ? Eh bien, l'expérience française prouve que le juré français, quand il découvre dans les journaux écrits ou surtout télévisés, le soir même des débats, ce qui s'est passé, les comptes rendus d'audience auxquelles les jurés ont participé, c'est d'abord l'étonnement devant les différences qui séparent ces récits de leur propre expérience de l'audience. En d'autres termes, l'image d'un procès n'est pas celle qu'en éprouvent les jurés qui sont pourtant aux premières loges. Il n'en reste pas moins que tous nos orateurs ont pointé à plusieurs reprises le rôle tenu par les médias dans les grandes affaires. Y aurait-il eu une affaire d'Outreau sans l'intervention des médias ? D'où viennent ces expressions « quartier de la honte », « tour de l'horreur », « affaire Dutroux à la française », « du bureau du petit juge » ? Non, sûrement pas. Mais de ceux-là même qui, cette année, ont également inventé le « Tchernobyl judiciaire ». Quels auraient été les titres si, à l'époque, le juge d'instruction avait laissé en liberté tous ceux qui avaient été formellement accusés par les enfants ? De la même manière, le trouble que nous avons connu cette année eût-il été le même si les audiences de la commission parlementaire n'avaient pas été retransmises ? On voit que la place prise par les médias dans les affaires sensibles est devenue prépondérante. Jean-Pierre Berthet, grand professionnel du journalisme judiciaire, est venu nous faire part de son expérience. Il est clair qu'il est aujourd'hui impossible de revenir en arrière, les journalistes, ou du moins leur rédaction, n'exploitant les faits divers qu'à la mesure de l'intérêt qu'y prennent nos compatriotes, et j'ajouterai, et nous-mêmes, qui sommes les premiers dévoreurs des journaux, plus ils racontent des horreurs, plus nous les lisons avec effroi, et au lieu de les rejeter, nous les gardons dans une corbeille spéciale dont on les extraira à tête reposée. Derrière chaque grande affaire se dessinent à grands traits les principaux éléments des mythologies contemporaines. Et les grands procès sont des tragédies, comme nous l'a si bien développé devant nous Maître Jacques Vergès. Le succès des téléfilms judiciaires cette année est fantastique. On a eu Marie Bénard, l'affaire Villemain, et avant-hier l'affaire Weber, la diabolique de Nancy. Et je dois dire que j'y ai pris un intérêt certain, bien que l'émission ne se termine qu'à 00h30, ce qui pour moi est une heure terriblement tardive. C'est la preuve qu'il y a un filon d'or massif pour ceux qui cherchent à raconter l'histoire judiciaire de notre société. Et Jean Tullard, en décrivant devant notre Académie l'image de la justice dans le cinéma français, nous a montré l'importance de cette image et parfois son exactitude. Je dois ajouter, il l'a dit, que nul ne peut mieux évoquer un débat judiciaire et les grands barrissements tragiques des grands ténors du passé, notamment de Mauro Giafferi, que le Rému des Inconnus dans la maison, qui est plus vrai que la vérité et qui est d'un talent écrasant qu'aucun avocat n'a jamais réussi à atteindre parce qu'il est déstabilisé devant une caméra et qu'il ne retrouve son talent que quand il a les jurés en face, l'avocat général également, et j'allais dire le peloton d'exécution dans le dos. Ça donne du talent si on en a un peu. Que peut-on faire contre ces débordements médiatiques? Eh bien, Jean-Pierre Berthet a insisté sur le rôle de l'éducation, celle des journalistes en premier lieu. Et il a précisé que si les journalistes judiciaires ont une solide formation, c'est vrai, je le constate dans mes émissions tardives de télévision, il n'en est pas de même des reporters qui investissent parfois en masse les lieux de l'enquête, procèdent à leurs propres investigations, pendant que le juge d'instruction tente malheureusement d'arriver à édifier les siennes, recherchent du sensationnel, quitte même à faire lire ou à lire sur un plateau de télévision une lettre adressée par un tueur en série. Je ne donnerai pas le nom de l'auteur, ça serait lui faire de la réclame, mais il a fait cette chose abominable de passer dans une émission de télévision une lettre d'un tueur en série qui lui avait été adressée. De leur côté, les juges ont des réticences à communiquer, tandis que les avocats ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de cette opportunité pour faire avancer un dossier. Les juges n'aiment pas violer l'article 11 du Code de procédure pénale et exposer la réalité. D'où sortent les fuites judiciaires d'un mystère profond dont je n'ai jamais pu évacuer l'obscurité. Ça ne peut pas être du juge, ça se saurait. Ça ne peut pas être du parquet, c'est un magistrat. Ça ne peut pas être du greffier, ils sont tous honnêtes. Je le reconnais bien volontiers pour les avoir fréquentés une partie de ma vie. Mystère. En tout cas, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse rapprocher les juges et la presse d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher les trois, les juges, la presse et les avocats. C'est la quadrature du cercle, me direz-vous, monsieur le garde des Sceaux. Ils se sont aimés naguère, j'en témoigne, quand j'étais jeune avocat, je respecte toujours, mes juges, et je les aimais, et nous entretenions des relations qui, pour être familières, n'en étaient pas moins parfaitement professionnelles. Eh bien, aujourd'hui, il semble que les choses sont parfois très légèrement changées et qu'il y a des sentiments d'irritation qui existent parfois entre certains avocats et certains magistrats, ce qui n'exclut nullement ni le respect ni la confiance. Les idéaux de la presse et du juge sont totalement incompatibles. Le journaliste, le temps court, c'est le scoop. Pour le magistrat, le temps, parfois trop long, c'est la réflexion et le jugement. Cette incompatibilité avec un monde moderne et pris de vitesse et de productivisme ne concerne pas que la justice. Ce décalage entre la réalité et sa transposition médiatique, l'Académie en a fait l'expérience. Je ne sais pas si vous avez regardé il y a quelques jours un documentaire télévisé d'une chaîne nationale qui avait décidé de parler des académies qui composent l'Institut de France. L'émission était excellente, pleine d'images riches. J'en ai appris plus sur la roulette de Monaco que de toute ma vie de non-joueur. Mais je pense qu'il n'y a eu aucune référence à un travail de réflexion. Ce travail que nous menons attentivement dans nos différentes académies et dans la spécialisation qui est la nôtre. Je pense que beaucoup de journalistes considèrent comme les juges dans leurs atours surannés que les académiciens dans nos habits verts, nous sommes également surannés. Nous datons un peu, semble-t-il. Et pourtant, si nous n'avions pas nos costumes, y aurait-il tant de monde à nos séances? Je n'en suis pas absolument certain. À une époque où il peut sembler électoralement payant de proposer de retransmettre en direct les séances du Conseil des ministres, quelles chances peuvent avoir encore des institutions qui prennent le temps de l'étude, qui pèsent leurs mots, ou pire, qui refusent l'intégrale publicité de leurs débats ? Dans une communication panoramique, mon ami et confrère du barreau Henri Adair, co-auteur des règles de la profession d'avocat, a présenté les liens intimes qui unissent le secret et la justice. Et même lui, après avoir rappelé que le secret vise en priorité à sauvegarder la réputation des mis en examen, a affirmé que la justice devrait sans doute accepter de sacrifier à l'opinion en tout ou en partie ce secret d'instruction qui de toute façon n'y est plus qu'un leurre. Mieux vaudrait un accès régulier à l'information que la violation incessante et sans risque d'un secret mal gardé à laquelle on assiste. Deuxième thème que nous avons envisagé, j'ai été classé non pas par ordre chronologique, mais par ordre d'importance, mais par ordre thématique, les juges. Nulle réforme n'empêchera jamais que l'acte du jugé soit un des plus cruels qui existent, ni que le métier de juge demeure un des plus périlleux. Le chancelier d'Aguesseau, dans sa 11e mercuriale de Saint-Martin de 1708, interpellait ainsi les magistrats. « Ministre de la justice, espérez encore moins que le reste des hommes de surprendre le jugement du public. Élevé au-dessus des peuples qui environnent votre tribunal, vous n'en êtes que plus exposé à leur regard. Vous jugez leurs différends, mais ils jugent votre justice. » Cette méditation du XVIIIe siècle est d'une totale actualité, car effectivement, les juges sont devenus, avec excès, la cible de trop de critiques. J'ai tenu, pour rééquilibrer ce débat, à donner la parole à deux jeunes magistrats pendant cette année académique, qui se sont révélés tous les deux, chacun dans son domaine, particulièrement brillant, pour qu'ils nous informent sur la justice au quotidien. Fini les grands procès, fini les grands éclats, fini Jacques Vergès et toute l'admiration que je lui voue. Mais nous avions là la tranche de vie, avec Henri de la Rosière, président du tribunal de grande instance de Vannes, qui a dressé un portrait serein mais saisissant du travail au jour le jour des magistrats. Alors, je ne parlerai pas de l'encombrement de la justice, du poids difficile des audiences, tout cela, nous le savez. Il a cité une statistique, c'est ce qui m'intéresse. Chacun des 600 juges d'instruction de France, assisté d'un greffier, est chargé d'un cabinet d'instruction et saisit en moyenne de 56 affaires nouvelles par an qu'il instruit simultanément 97 procédures. Compte tenu des jours ouvrables, je n'ai pas dit les 35 heures qui sont dépassées depuis des décennies dans la justice, c'est plutôt 350 heures par semaine. Il peut donc, au rythme de ses saisines, consacrer en moyenne 4 jours de travail par affaire. Alors, si dans une affaire particulière, il en consacre 15, c'est les autres qui souffrent. Et de rappeler la pauvreté chronique de l'institution judiciaire, nous avons entendu dans une communication de M. Jean-Charles Asselin, correspondant de notre académie, qui a publié un travail considérable sur le budget de la justice en France depuis l'époque napoléonienne. C'est un travail qui vaut la peine parce qu'il est sans parti pris. Et des efforts ont été faits récemment pour que les crédits budgétaires de la justice demeurent plus importants en fonction des missions qu'elle accomplit dans l'État. Et je dois dire, Monsieur le garde des Sceaux, que vous êtes particulièrement orfèvre à la matière pour nous remonter d'un rang inférieur où nous étions. Je crois qu'on est maintenant à la 11e place des pays du monde, ce qui est quand même parfaitement honorable, même si ce n'est pas le score voulu par Pierre de Coubertin pour les candidats aux Jeux Olympiques. Mais il faut prendre garde également. Alors là, j'ouvre un thème connu que vous avez peut-être entendu il y a quelques instants dans la bouche de Pierre Mazeaud. C'est qu'il faudrait, non pas enclouer les parlementaires, ce ne serait pas possible, mais diminuer l'inflation législative en raison du fait qu'elle accroît sans cesse la tâche des juges et des avocats. Mais, en tant qu'ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, vous êtes très sensible à cet aspect des choses, et je sais par expérience que vous saviez limiter les ambitions législatives des différents ministères qui comparaissaient devant vous. Car le propre d'un ministre français, je parle des anciens autrefois, ce n'est plus le cas, c'est d'avoir sa loi qui porte son nom et que c'est avec un dévouement qui touche parfois la servilité. Les services lui fabriquent. La loi untel. Alors, on amène ça devant la commission des lois. On est tout surpris de l'accueil réservé de la dite commission. On est encore plus surpris de l'accueil réservé, non pas du Parlement, qui, lui, adore voter des lois quand on les lui donne, mais de des professionnels qui disent « Est-ce qu'on pourrait un peu moins légiférer ?» Le deuxième magistrat que nous avons fait venir, c'était pour mettre au point des opinions qui s'étaient manifestées de ci, de là, sur la juridiction des enfants. D'aucuns avaient dit qu'elle était faible et que l'ordonnance de 45 était vieillotte. On a fait venir devant nous Madame Muriel Aiglin, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, chargée des mineurs. Et elle nous a exposé sans passion et avec fermeté l'action des juges dans la répression de la violence des mineurs. Elle est, comme moi-même, héritière des principes posés par nos confrères Émile Garçon et Marc Ancel. Elle est attachée à la pensée de l'ordonnance de 45 et de Monsieur Costa. Et certes, il y a une crise, mais ce n'est pas une crise de la justice, mais c'est une crise de la société française. On ne peut pas croire que la justice des mineurs, pas plus que l'école d'ailleurs, ait vocation à être la voiture balai de tout ce qui n'a pas été réglé en amont, comme l'a dit si bien le président Chazal de Mauriac. Alors, pour répondre à ce défi nouveau, il faut l'étudier. Et comme l'a fait l'Observatoire de la délinquance, présidé par Alain Boer, qui a tiré devant nous des conclusions peu optimistes d'ailleurs de ses travaux. Après l'étude, il faut la concertation et le travail sans arrière-pensée des différents acteurs sociaux. Je viens de vous donner un exemple, deux juges qui ont fait sur moi et sur nos confrères forte impression. Deux juges que je n'ai trouvés ni autistes, ni pleins de morgue, contrairement à une caricature de leur profession qu'on voudrait nous imposer depuis un an. Car on a tout entendu sur le petit juge. Orgueilleux, sadique, trop solitaire, trop jeune. Alors, qu'il soit d'aspect juvénile, j'en conviens. Mais si on regarde le calendrier, il n'est pas plus jeune que la plupart des fonctionnaires qui occupent un rang d'une certaine importance. Donc, il y a eu là aussi des exagérations. Personnellement, je ne le connais pas. Je ne le défends pas particulièrement. Même si le réflexe professionnel d'avocat bien ancré chez moi a déterminé une émotion quand j'ai vu le moment où le rapporteur de la commission parlementaire, si utile et si remarquable, la commission et le rapporteur, étaient dans une telle volonté d'interrogatoire que je me suis demandé, car le garçon que j'ai vu à la télévision longtemps a un très long cou, si à un moment le couteau du sacrificateur antique n'allait pas s'abattre sur son cou. J'ai eu peur. J'ai eu peur à la télévision. Là, il devait être 3h du matin. C'est l'heure où les craintes commencent à m'habiter. Alors, me direz-vous, est-ce que vraiment l'instruction est mal faite en France ? Est-ce qu'il y a un vice fondamental, un vice qui se traduit par les personnes qui sont chargées de la donner ? Eh bien, je vais vous narrer une histoire, si vous vous autorisez. Une histoire que je trouverai, bien entendu, chez mon père spirituel Anatole France, qui est le seul à avoir bien parlé de la justice. C'est l'histoire de M. Thomas, juge d'instruction austère, qui fut chargé d'instruire l'affaire d'un instituteur que les journaux locaux accusaient d'avoir assis un de ses élèves sur un poêle porté au rouge. Le juge, qui était honnête homme, dit Anatole France, crut dans son devoir d'accueillir les plaintes portées contre l'école et l'instituteur. Ce qu'ajoute Anatole France, c'est que c'était une école laïque et que donc ça intéressait encore plus un certain nombre de gens, puisqu'à l'époque, il y avait des querelles qui, depuis Michel Debré, ont terminé entre l'école laïque et l'école bien pensante, enfin pensante autrement. Il ne s'aperçut pas de son extrême promptitude à accueillir ses plaintes. Je dois dire qu'il instruisit l'affaire avec un soin minutieux et des peines infinies. Il instruisit selon les méthodes ordinaires de la justice. Il en obtint de merveilleux résultats. 30 enfants de l'école, curieusement interrogés, c'est-à-dire avec curiosité, lui répondirent mal d'abord, bien ensuite, très bien enfin. Après un mois d'interrogatoire, il répondit si bien qu'ils faisaient tous la même réponse. Les 30 dépositions concordaient, elles étaient identiques, littéralement semblables. Et ces enfants qui, les premiers jours, disaient « n'avoir rien vu », déclaraient maintenant d'une voix claire et en employant exactement les mêmes mots que leur petit camarade avait été assis le derrière nu sur un poêle rouge. Monsieur le juge Thomas se félicitait d'un si beau succès quand, l'instituteur établit sur des preuves irréfutables qu'il n'y avait jamais eu de poils dans la salle d'école. Monsieur Thomas a eu alors quelques soupçons que les enfants mentaient. Mais ce dont il s'aperçut point, c'est qu'il avait, leur avait lui-même, sans le vouloir, dicté et appris leur témoignage. Alors l'affaire se termina par une ordonnance de non-lieu. Mais l'instituteur fut renvoyé chez lui après une sévère admonestation du juge qui lui conseilla vivement de réfréner à l'avenir ses instincts brutaux. Les petits-enfants vinrent faire des charivaris devant l'école désertée. Quand il sortait de sa maison, on cria à l'instituteur « Ohé, gris-cul !» et on lui jetait des pierres. Monsieur l'inspecteur primaire, instruit de cet état de choses, fit un rapport constatant que cet instituteur n'avait pas d'autorité sur ses élèves et concluant à son déplacement immédiat. Il fut envoyé dans un village lointain où l'on parle un patois qui ne comprend pas. Il y est appelé gris-cul, c'est le seul mot français qu'on y sache. Tout y est, dans ce texte d'Antoine France ou presque, la pression du corps social, le juge sûr de ses certitudes, des enfants dont le témoignage est sous influence, mais qu'on doit croire. Puis comme on le sait, les enfants ne peuvent pas mentir. Ça, c'est les travailleurs sociaux, souvent qu'ils croient, comme s'ils n'avaient pas été touchés, comme d'autres, par le péché originel qui les entraîne. La conception rousseauiste du monde, l'homme naît bon. Non, il naît mauvais. Et c'est l'éducation qui le rend bon. On est donc la détention provisoire en moins dans cette affaire gris-cul, on est en plein outreau. Et pourtant, ce texte a déjà 100 ans. En fait, le juge Thomas a manqué de bon sens et de discernement dans la conduite de l'instruction. C'est ce qu'on pouvait reprocher au juge Pascal, celui de Bruet, qui, pour des raisons idéologiques, ne pouvait que délivrer un mandat de dépôt contre un notaire de Bruy en Artois, ennemi de la société par classe et assassin vraisemblable d'une morte inconnue dont on n'arrivait pas à trouver les auteurs. Peut-on remédier à cela? J'aurais une tendance spontanée à répondre non, en raison du pessimisme radical qu'acquiert tout avocat à force de tours et de détours dans les méandres de l'âme humaine. Je crois qu'on le chantait, Brassens, « L'âge ne fait rien à l'affaire ». J'ai acquis sa certitude cette année que nos jeunes juges sont bien formés. Ils savent tout de la procédure, dans le détail, sans se tromper. Il faut être très formé pour ne pas se prendre les pieds dans la masse d'actes à établir dans une instruction aussi complexe que celle d'Outreau. Et quand on a une demande de liberté tous les 15 jours posée par un des accusés, pour arriver à s'en sortir sans être infirmé par la chambre d'accusation ni cassé par la chambre criminelle, il faut quand même qu'il soit établi un tableau avec, en abscisse et en ordonnée, des dates, des actes à faire. C'est donc une prouesse technique, mais parfois, il y a trop de procédures et pas assez d'humains. J'exagère bien évidemment, car Marc Dobkin, directeur de l'École nationale d'administrature, est venu exposer devant nous les efforts accomplis pour ouvrir l'esprit des futurs magistrats. Mais l'humanité ne s'acquiert pas sur les bancs de l'école. Un jour que nous devisions avec Michel Debré devant le temple de l'amitié au fond de son jardin, il me confia qu'il n'avait fait qu'une seule erreur dans sa vie publique, avoir créé l'ENM. Je pense qu'il était sévère à son endroit, car aujourd'hui, en raison de la complexification constante des procédures, une formation professionnelle initiale irréprochable est absolument indispensable, et on l'a à Bordeaux. J'ai enseigné peu à Bordeaux, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les regards francs de ces élèves qui prouvent encore la pureté de leurs intentions et la santé de leur cœur. Permettez-moi de regretter quand même, dans une nostalgie de vieillard, ces juges d'autrefois qui avaient appris au contact des avocats une humanité ou un humanisme qui semble aujourd'hui parfois peut faire défaut à leurs successeurs. Mais est-ce un mirage qu'apporte l'âge aux vieillards, toujours tentés d'être des laudatores temporis acti? C'est possible. La responsabilité des juges. Nous avons donc en moyenne de bons juges. Perfectible, comme chacun d'entre nous, mais bon. Toutefois, que doit-on faire cet écart qui existe et qui existera toujours entre le bon et le parfait? Que doit-on faire en un mot quand la justice se trompe? Mais d'abord, la justice peut-elle se tromper? Ah ben, la preuve en est faite, c'est qu'il y a des infirmations des jugements de première instance par les cours d'appel et la cassation des arrêts des cours d'appel. Donc ça prouve qu'on peut se tromper, puisque ce sont les tribunaux eux-mêmes qui, dans le code de procédure civile et le code de procédure pénale sont chargés de surveiller la bonté satisfaisante et totale des jugements des premiers juges. Dans une communication très fouillée sur l'expertise en matière judiciaire, François Gibault, avocat à Paris, l'a rappelé, malgré les progrès techniques, le jugement des juges reste fondé sur l'intime conviction, comme le diagnostic du médecin dépend aussi de son art. Donc ce n'est pas un travail de technicien qu'on peut vérifier au vernier et au palmaire, c'est une impression, et l'impression peut entraîner des erreurs. Ces erreurs, eh bien, peuvent entraîner des réformations et des cassations. Le président Jean-Claude Magendie et notre confrère Jean-Denis Brelin de l'Académie française ont abordé avec prudence et profondeur ce problème délicat de l'erreur, de sa réparation et de la responsabilité du juge qui s'est trompé. Il est évident que le juge a le droit de mettre une personne en détention dont la culpabilité n'est pas certaine. D'abord pour préserver les preuves, pour préserver les indices matériels, pour l'empêcher de faire une pression sur les témoins, le recours à la détention provisoire peut s'imposer pour protéger la personne mise en examen ou mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public. Ces actes sont normaux, mais sont-ils dès lors condamnables, même s'ils ont porté tort aux innocents emprisonnés, même indemnisés par l'État ? La réponse n'est pas simple, d'autant que l'humeur du temps nie de plus en plus le caractère inévitable du risque et cherche à chaque accident de la vie un responsable. Tant à Cayette, appliquons alors le principe de précaution, mais je vous dirais, ironiquement, que le meilleur moyen d'éviter l'erreur judiciaire ou le dommage judiciaire serait définitivement l'interruption de toute poursuite. Il n'y aurait pas de justice, mais elle serait impeccable. Doit-on, pour satisfaire l'opinion, légiférer sur la responsabilité des juges ? Avant de répondre, je tiens à redire une chose simple qui semble oubliée. Le juge n'agit pas en toute impunité, contrairement à ce qu'on dit trop souvent dans les étranges lucarnes. Sa responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Il n'est pas à l'abri de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il est contrôlé par les chefs de cour et des juridictions s'exerce sur lui. Sa responsabilité civile peut être retenue dans le cadre d'une procédure récursoire pour faute professionnelle. Faut-il aller plus loin pour que les Français reprennent totale confiance dans leur justice ? Vous avez le grand mérite, monsieur le garde des Sceaux, après avoir entendu l'avis du Conseil d'État, toujours plein de sagesse, de remettre à la réflexion ce point extrêmement sensible, pour beaucoup et pour certains. Et si certains ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous comprendre, sachez que les membres de l'Académie sont prêts à vous accompagner dans ce travail d'approfondissement de ce texte délicat. L'indépendance de la justice. Le mythe de l'irresponsabilité absolue des juges est lié à une vision de la justice considérée comme transcendante par rapport au corps social. Alors, monsieur Jean-Amédée Latoux, procureur général de Versailles, et vous-même, monsieur le garde des Sceaux, nous avez parlé du parquet du juge d'instruction et vous nous avez montré l'importance d'un parquet hiérarchisé mais composé de magistrats. Un certain nombre de personnes n'ont pas compris le problème parce qu'il est un peu technique. Il est pourtant nécessaire. Nous avons un corps de magistrats du parquet qui sont des magistrats tout en ayant la fonction de magistrats gérés par le pouvoir politique, mais dans une indépendance totale de leurs sentiments et de leurs poursuites. En tout cas, personne ne nous a montré d'exemple récent qui puisse penser qu'il y ait eu des magistrats manipulés d'en haut, d'autant plus que les promotions d'ordre d'avancement dépendent du Conseil supérieur et pas seulement du garde des Sceaux ou du ministère. Nous avons demandé à Elisabeth Zoller de nous parler du système français et du système américain du parquet, et elle nous a démontré que le système américain n'est pas transposable dans notre pays en raison des spécificités du fédéralisme des États-Unis et surtout des inégalités sociales dont les États-Unis s'accommodent et qu'en France, pays de la commission d'office un peu payée, demain plus grâce à vous, de la désignation des judiciaires un peu plus payée chaque jour, nous avons tenté de surmonter les inégalités sociales. Finalement, le système judiciaire français est susceptible de relever tous les défis qui se présentent à lui. Il n'en était pas de même jadis, car sous l'Ancien Régime, les parlementaires, propriétaires de leurs charges, étaient indépendants du roi. Ça a amené un certain nombre de crispations. Ils ont osé casser le testament de Louis XIV. Fallait le faire. Ils ont ensuite envoyé au roi des remontrances, puis des itératives remontrances. Il leur a répondu par des lettres de gestion et des lits de justice. Puis un jour, le roi Louis XV, qui avait du caractère, en a eu assez, et c'est l'époque de la grande flagellation de 1764. Devant les magistrats du Parlement rassemblés, il leur dit « L'unique pouvoir de juger réside en ma personne, dans le sacre dont je suis bénéficiaire. Vous n'êtes que mes commis et vous n'avez qu'à faire ce que je vous dis. » Et puisqu'il ne le faisait pas, il chargea son grand chancelier Maupoux, dont notre ami Jean-Luc Chartier vient d'étudier la carrière dans un excellent livre, et grâce à Maupoux, la justice en France n'a plus connu sa opposition stérile entre le pouvoir et les juges. Les juges font leur travail et l'État fait le sien. Le rappel des parlements par Louis XVI est le prélude de la Révolution française. Mais ce qui n'était pas perdu pour tout le monde, puisque lorsque Bonaparte a voulu refaire une justice, il l'a confié à son troisième consul, l'archi-trésorier futur de l'Empire, Lebrun. Or, Lebrun était le secrétaire de Maupoux. Et donc, il a retrouvé dans ses papiers les notes qu'il avait prises sous la direction du patron pour faire une réforme judiciaire. Et c'est ce qui est devenu la justice de tout le XIXe siècle, qui, jusqu'à des époques récentes, n'avait pas montré d'agacement particulier vis-à-vis du pouvoir. Il y a une exception que nous a expliquée M. le premier président Canivet, c'est la Cour de cassation. Cour de cassation qui a été enfantée sans douleur, mais contrairement à tous les principes, par le régime de Bonaparte. En effet, il était impensable qu'il y eût une cour de cassation, puisque l'article 5 du Code civil prohibait les arrêts de règlement, c'est-à-dire les arrêts qui s'imposaient à d'autres que dans les affaires où ils étaient rendus. Or, on a voulu recréer cette cour de cassation, et on a fait merveille. Parce que s'il n'y avait pas eu la cour de cassation pour assurer l'unité de la jurisprudence française, nous serions dans un désordre total selon qu'on serait à Douai ou à Bordeaux. On a donc une unité. Mais cette unité a amené la Cour de cassation jusque parfois à aller très loin et à fabriquer le droit. C'est ainsi que dans le silence total du législateur sur l'article 1382, à partir d'une disposition qui fait partie du code de Cambacérès approuvé par la Convention, eh bien, on a créé ce droit qui comporte l'automobile, les bouteilles d'eau de sel, etc. Ça a été fabriqué par la Cour de cassation. Et je crois qu'on aimerait bien aujourd'hui que le législatif reprenne ses attributions dans les cas où il y avait notamment des trous législatifs que la Cour de cassation essaye de combler avec son génie particulier, mais qui ne sont pas nécessairement une bonne chose que de la forcer à fabriquer du droit là où il est si simple au législateur. Je parlais tout à l'heure de son abondance de fabriquer lui-même les lois. Avant de conclure, je voudrais une nouvelle fois remercier tous ceux qui ont présenté devant l'Académie et dont vous retrouverez les textes en mars prochain dans le livre qui sera publié, je vous le rappelle, aux presses universitaires de France. Et vous trouvez tous nos textes. Et je voudrais m'excuser auprès de ceux que je n'ai pas eu, faute de temps, la possibilité de parler. Mes confrères du barreau, à commencer par mon complice et ami Jean-Gaston Moore, le bâtonnier Yves Piquet, bâtonnier à l'exercice du barreau de Paris, le bâtonnier Henri Adair, Jacques Vergès, François Gibault. Ils me pardonneront de ne pas avoir parlé boutique cet après-midi, car ils m'ont entendu si souvent le faire. Et au-delà d'eux, je salue toute ma profession qui est, les incidents récents judiciaires m'en ont convaincu, le seul rempart plausible contre les dérives de la justice. Le barreau est important. Vous l'aimez, monsieur le garde des Sceaux. Vous le prouvez en lui donnant des possibilités d'action nouvelles et des droits supplémentaires. C'est une excellente chose. Le barreau n'est pas là pour s'opposer à la magistrature, mais en, comme disait Perfit, en bon partenaire de justice pour travailler avec elle. Je voudrais également saluer tous ceux que je n'ai pas pu nommer, Bertrand Gallimard Flavigny, qui nous a préparé une excellente communication sur les abus de jugement Monseigneur Valdrini, qui nous a parlé du droit canon, Sœur Basile Marquis-Sénis, correspondant de notre académie et spécialiste internationalement reconnu de droit comparé, Marc Guillaume, qui nous a donné une communication sublime sur le sceau de France, les titres nobiliaires et les changements de nom, et qui est devenu le bréviaire de tous les spécialistes de ces questions, l'ANF et beaucoup d'autres. Ce qui fait que son texte, on se l'arrache aujourd'hui. Vous avez un directeur des affaires civiles qui est aujourd'hui aussi cité que le garde des Sceaux, dont il est le serviteur fidèle et attentif. Nous aurons encore quelques travaux, notamment M. Gilbert Guillaume, qui a été président du tribunal international de La Haye, vient de nous parler des juridictions internationales. Juridictions internationales qui se multiplient aujourd'hui et qui ne sont pas toutes d'une qualité évidente. Certaines juridictions fabriquées pour les besoins d'une affaire tournent un peu au tribunal mafieux. Tandis que, heureusement, la grande Cour internationale de La Haye, qui pour la deuxième fois a été présidée par un Français, Jules Badevant d'abord et Gilbert Guillaume ensuite, est une juridiction exceptionnelle. Nous aurons également des confrères du Conseil d'État, des collègues du Conseil d'État, Bernard Stirn, Philippe Meyer, et le premier président Seguin conclura l'année en ouvrant les manifestations du bicentenaire de la Cour des comptes qui désormais assure la surveillance des finances de l'Institut de France depuis la récente réforme à laquelle vous avez participé, monsieur le garde des Sceaux. Pour conclure le bilan de cette année, que peut-on dire ? Beaucoup de bruit pour rien, peut-être. Je disais que le monde est imparfait, que seul comptent nos efforts. Mais par vous, monsieur le garde des Sceaux, en élaborant une réforme équilibrée et honnête qui représente une avancée réelle pour la défense des justiciables, nous avons également eu des efforts couronnés de succès. Je dois dire qu'il reste une question dont je ne vous entretiendrai pas, non pas pour vous fâcher, mais parce que vous la connaissez bien, c'est les prisons. Ça sera une autre année. Les prisons, il y a deux questions. La première, c'est de savoir à quoi sert la prison. Nous sommes le pays de Tocqueville, il était membre de notre académie, il est allé aux États-Unis, le système pénitentiaire est un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, sait-on à quoi sert la prison ? À mettre les gens à l'abri ? À l'abri de qui ? À les mettre à l'abri d'eux-mêmes ? À les rééduquer ? Mais alors pour ça, il faudrait des moyens, il faudrait des possibilités, des éducateurs spécialisés. Y croit-on ? Oui et non. Il faut de l'argent. Ça suffit pas. Et c'est pourquoi notre académie a décidé que le président de l'Association nationale des visiteurs de prison aurait un prix de dévouement cette année pour montrer l'intérêt que nous portons à une question que nous ne l'avons pas abordée. Alors, je voudrais faire trois conclusions, mais très très brèves. La première, c'est que c'est pas demain encore le jour où la paix et la justice se réconcilieront. C'est le psaume 84, que vous connaissez mieux que moi, qui est un psaume des fils de Corée, c'est-à-dire c'est le jour où l'on revient dans le temple, tout joyeux, et on dit « Pax et justitia, oscula te sunt ». Monsieur Foyer aurait traduit immédiatement à la vitesse de l'éclair, mais la paix et la justice se sont embrassées. Mais c'est un peu un texte eschatologique, donc je ne suis pas certain que de notre vie, nous verrons la paix et la justice s'embrasser tendrement. Alors, la deuxième suggestion que j'ai, elle est impertinente, ce serait de dire à nos jeunes magistrats, à nos jeunes juristes, à tous nos juristes, qu'ils soient juristes, avocats, avocats d'affaires, ou qu'ils apprennent à faire des contrats, relisez ou lisez Anatole France. En matière de justice, il y a presque tout. Les dieux ont soif, Crainquebille, la rôtisserie de la reine Pédoc pour l'affaire de Suez, qui a été un drame à son époque, et puis l'île des pingouins pour l'affaire Dreyfus. Donc, la lecture attentive d'Anatole France vous procurera des joies infinies. Vous apprendrez qu'il faut être sérieux, mais que ce n'est pas parce qu'on est sérieux qu'on doit se prendre au sérieux. Puis la troisième conclusion, et la dernière, la très courte, que je voudrais donner, c'est que la paix, pas que cette justicia, la paix qui va avec la justice, n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflit. Elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle est sans cesse à construire. Sa réalisation exige que chacun maîtrise ses passions. La paix naît de l'amour du prochain. À chacun de nous d'être des artisans de paix, là où nous sommes nés, dans nos familles, nos communes, nos lieux de travail. Chacun aujourd'hui doit se considérer comme responsable pour sa part du progrès de l'esprit de paix dans l'humanité. Et ce jour-là, je crois qu'on pourra dire « Pax et justitia, osculate sunt ». Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Lucien Israël, vice-président de l'Académie, pour la lecture des prix.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est en cette circonstance solennelle et dans ce cadre prestigieux que l'Académie rend public chaque année, conformément à ses statuts, le palmarès des prix, bourses et médailles qu'elle attribue. Par la distribution de ces prix, l'Académie remplit l'une des missions que lui a confiées la nation, suivre, conformément aux lois et arrêtés du directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République. Loi du 3 Brumaire en 4. Elle le fait grâce à la générosité de celles et de ceux qui, lui accordant leur confiance pour perpétuer leur mémoire ou leur action, ont décidé d'abriter en son sein les fondations qui lui permettent d'accomplir son devoir. Certains de ses fondateurs sont parmi nous aujourd'hui, physiquement ou en pensée. Permettez-moi de les saluer. Le chancelier honoraire Édouard Bonnefous, auquel notre Académie doit bien plus que la distribution d'un prix. Claude Dulon-Saint-Denis, notre confrère. La famille de notre confrère Bernard Destremau. La baronne Maroussia Zerilli-Marimo, exemplaire par sa fidélité à notre Académie et à la mémoire de son époux qui fut correspondant de notre compagnie. Philippe Durieux, la princesse Anne-Lise Radziwill, qui a créé un prix pour honorer la mémoire de son défunt époux Daniel Strasser. Jeannine Gros, le Conseil national des affaires culturelles de Taïwan, dont le gouvernement est aujourd'hui représenté. Le père René Laurentin, Alexandre Vatin, président de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne, Sylvain Marandon, André Lévesque et Alain Desjonquières, et enfin la comtesse Chantal de Saint-Priest. Madame, je suis heureux de vous accueillir pour la première fois aujourd'hui dans cette enceinte. En effet, vous venez de créer, en mémoire de votre époux, le prix du bailli comte Josserand des Saint-Priest d'Urgel. Mais pour parler de ce prix, je laisse quelques instants la parole à notre président, qui le fera avec plus de science que je ne pourrais le faire.
Oui, je vais tâcher d'être bref. Vous n'y êtes pas habitué. C'est un prix de phaléristique. Phaléristique, se reporter à ce que j'ai dit tout à l'heure, la science des décorations, mot qui ne figure pas encore au dictionnaire, mais qui est digne d'y entrer. Alors, il n'y avait pas de prix de phaléristique, et Madame de Saint-Prix d'Urgel a voulu créer un prix de phaléristique qui a été attribué à un livre admirable de M. Pierre Rousseau, « Ordre et décoration au temps du protectorat français au Maroc, 1912-1956 ». C'est une histoire du Maroc à travers les décorations. C'est un livre qui se lit comme un roman et qui est illustré en plus et de choses extrêmement intéressantes. Donc la phaléristique existe maintenant, je le sais, je l'ai rencontré. Merci.
Je remercie Monsieur le Président et j'en viens maintenant à la lecture du palmarès de nos prix.
Je vous propose de retrouver l'intégralité du palmarès de l'Académie des sciences morales et politiques sur le site internet de cette Académie et d'entendre le discours de Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques consacré à la France et la mondialisation. Retrouvons-le immédiatement.
Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur l'inspecteur général des armées, Monsieur le maire, Messieurs les présidents, Monsieur le cardinal, Madame la duchesse d'Orléans, Monsieur le proviseur du lycée d'Épinay-sur-Seine, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les secrétaires perpétuels, Monsieur le chancelier honoraire, Monsieur le chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, la vocation de notre Académie est d'être un observatoire et un centre de réflexion et de conseil sur les grandes questions du moment. Quoi de plus approprié à cet égard, mon cher Président, que le sujet que vous avez choisi cette année sur la justice en France ? Ce sujet a été si bien traité que vous nous avez fait l'honneur, Monsieur le garde des Sceaux, de venir à deux reprises participer à nos séances. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Les statuts de l'Institut de France et des cinq académies étaient encore jusqu'au printemps dernier fixés par deux ordonnances royales de 1816 et de 1832. Cette année, le titre 4 de la loi du 18 avril 2006 sur la recherche, qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, réaffirme le caractère exceptionnel de nos institutions, dont l'existence continue de s'inspirer du geste inaugural du cardinal de Richelieu quand il créa l'Académie française. Bien qu'appartenant à la sphère publique, les académies et l'Institut sont rigoureusement indépendants. C'est ce que la nouvelle loi précise en un texte clair, pour une fois, et concis, dont les deux points essentiels sont les suivants. Je cite, « L'Institut et les académies qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du président de la République. Ils s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. » Ce texte est particulièrement important pour notre Académie. En effet, plus que tout autre peut-être, l'Académie des sciences morales et politiques a besoin d'une pleine liberté intellectuelle pour remplir sa mission de vigie sociétale et de conseillère des pouvoirs publics. Usant de sa liberté de parole, l'Académie prendra position dans quelques semaines sur un problème fondamental et d'une vive actualité en publiant un livre intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». À la veille d'échéances cruciales, notre compagnie, fidèle à sa vocation et à ses traditions, a jugé nécessaire d'attirer l'attention de nos compatriotes sur ce problème encore méconnu, même si les événements de cette année ont eu tendance à en faire un thème à la mode. Autant que celle des gouvernements successifs, c'est la responsabilité de la collectivité nationale qui est ici engagée, qu'il s'agisse de l'emploi, de la formation, de la solidarité entre les générations ou de la dette publique, les politiques nationales, malgré leurs bonnes intentions et certains progrès récents, se sont dans l'ensemble révélés peu efficaces et injustes envers tout ou partie de la jeunesse. Ce rapport a été élaboré avec l'aide de chercheurs placés sous la direction du professeur Daniel Cohen, grâce au soutien de la Fondation Del Duca de l'Institut de France. Ses co-auteurs sont d'une part cinq académiciens, les deux anciens premiers ministres, messieurs Raymond Barre et Pierre Messmer, le président du groupe de travail, monsieur Marcel Boiteux, ainsi que monsieur Gabriel De Breuil et moi-même. D'autre part, trois éminents experts, le professeur Christiane Boissieu, que je suis heureux de saluer ici, président délégué du Conseil d'analyse économique, monsieur Jean-Michel Charpin, directeur général de l'INSEE, et enfin M. Jean-Philippe Cottis, économiste en chef de l'OCDE. Pour prendre la mesure de ce qui est en cause dans cette réflexion, il convient peut-être d'abord de se souvenir que la Ve République aura bientôt 50 ans. Or, au regard des perspectives d'avenir pour la jeunesse française, ce demi-siècle se partage en deux moitiés radicalement différentes. La première moitié, qui s'est déroulée jusqu'au début des années 80, appartient pour l'essentiel à la période que notre confrère Jean Forestier a eu le génie de désigner comme l'époque des Trente Glorieuses. Elle a été une sorte d'âge d'or pour la jeunesse française à cette époque, qui était aussi, selon l'expression d'Alfred Sauvy, celle de la montée des jeunes. Le chômage n'existait pratiquement pas et l'abondance des offres d'emploi était telle que l'économie française, non contente d'absorber un énorme exode rural, devait aller chercher les immigrés dans leur pays d'origine. Notre enseignement était jugé exemplaire, non seulement par la qualité des élites qui en sortaient, mais plus largement par son ouverture croissante aux jeunes des classes populaires, lesquels participèrent en grand nombre à une ascension sociale et à un progrès matériel sans précédent. Autre formule éclatante due à notre confrère Jean Forestier, le grand espoir du XXe siècle commençait à devenir une réalité. Depuis le début des années 80, voici un quart de siècle, la situation s'est retournée point par point au détriment des nouvelles générations. Le grand espoir a laissé place à une source d'inquiétude. La société française est aujourd'hui inquiète pour ses enfants, pour sa jeunesse, pour son avenir en général. Interrogés au printemps 2006, 3 Français sur 4 estiment que les nouvelles générations auront moins de chances que celles qui les ont précédées. Cette vague de pessimisme se traduit dans les jeunes générations par de violentes poussées de fièvre, émeutes en banlieue, manifestations de stagiaires, grognes de jeunes chercheurs, mobilisation contre le contrat de première embauche. À ces éruptions de protestations, voire de violences, se joignent des symptômes plus diffus qui signalent un désenchantement, telle la montée du suicide et la consommation de psychotropes. Ce désenchantement est surtout la marque d'une singulière et toute récente inaptitude de la société française à se projeter positivement dans l'avenir. On se souvient que dans son grand livre « L'étrange défaite », l'historien Marc Bloch, fusillé par les Allemands en 1944, a écrit « Nous avons été vaincus parce que nous pensions en retard ». Ainsi en est-il aujourd'hui, en quelque sorte, de l'opinion française face à la mondialisation. Mieux que tout autre aspect de notre vie nationale, c'est peut-être l'histoire de nos finances publiques qui manifeste le contraste le plus frappant entre la première et la seconde moitié de la Ve République. En 1958, lorsque le général de Gaulle est revenu au gouvernement, la situation financière de la France était lamentable. Sous l'inspiration de notre confrère Jacques Rueff, le général s'engagea alors dans une politique de réforme aussi courageuse que clairvoyante qui allait faire du franc une monnaie forte et respectée, même et surtout après mai 68, lorsque le général, contre toute attente, refusa de dévaluer notre devise nationale. À l'époque, le mot « mondialisation » était encore inconnu. mais à partir du moment où celle-ci s'imposa sous l'effet de la libération des échanges et des mouvements de capitaux, ainsi et surtout que des nouvelles technologies de l'information, il devenait encore plus nécessaire que la gestion des finances publiques fût rigoureusement ordonnée aux nouvelles exigences de la préparation de l'avenir et de l'adaptation du pays à l'économie du XXIe siècle. Cette nouvelle économie, qui se manifeste de plus en plus comme une économie de la connaissance, impose à tous les pays, voire à toutes les universités, de se positionner sur ce qui constitue désormais le marché mondial du savoir. Or, c'est dans une large mesure le contraire que nous avons fait, comme l'a si bien montré le rapport Pébrot. Aujourd'hui, les finances publiques de la France constituent d'une part, pour notre jeunesse, un handicap par le poids accablant, je pèse mes mots, tant de la fiscalité que de nos déficits cumulatifs, et d'autre part, face à la mondialisation, une atteinte portée à notre compétitivité économique et sociale par les retards croissants de la recherche française dans nombre des secteurs les plus prometteurs des sciences et des technologies. Au lieu de s'endetter pour investir dans la préparation de l'avenir, ce qui, après tout, aurait peut-être pu être considéré comme légitime, la France des dernières décennies s'est dépensée dans l'espoir irréaliste d'échapper aux exigences du nouvel état du monde. Face aux efforts que notre pays doit consentir désormais pour tenir sa place dans le monde, une nouvelle et double tentation risque de surgir. La tentation négationniste, qui consiste à condamner verbalement la mondialisation, et la tentation décliniste, qui revient à prophétiser que quoi qu'elle tente et quoi qu'elle fasse, la France a perdu d'avance. Loin de succomber à l'une ou à l'autre de ces deux tentations, je voudrais esquisser en quelques mots deux diagnostics qui me paraissent importants en la matière. Le premier diagnostic part du fait que le fameux village global, né de la mondialisation, est un lieu de non-droit, dépourvu de justice, où peuvent prospérer toutes sortes d'industries de la criminalité. Il n'empêche que même le mouvement Attaque a renoncé à se présenter comme anti-mondialiste pour se convertir à un alter-mondialisme qui reste d'ailleurs un peu dans les limbes. Et cela, d'abord, me semble-t-il, parce que l'interpénétration croissante des économies a permis en moins d'une génération la libération économique de plus d'un milliard d'hommes et de femmes qui, antérieurement, restaient prostrés dans une misère immémoriale. Il convient, pour en apprécier les effets, de cesser de regarder la mondialisation à travers notre seul prisme hexagonal. C'est pourquoi, parmi bien d'autres qui sont à noter, je retiendrai trois événements caractéristiques de cette mondialisation survenue au cours des derniers mois. Premier événement, une famille indienne, Mittal, a acheté le premier sidérurgiste européen. Qui aurait pu imaginer cela il y a quelques années ? Deuxième événement, la banque d'État chinoise ICBC est entrée en bourse pour une levée de fonds de 22 milliards de dollars, la plus importante de toute l'histoire financière du monde. Et comble de succès, si l'on peut dire, cette banque a accompli ce record boursier en gardant à sa tête un comité du Parti communiste. Mais la mondialisation n'est pas seulement économique et financière, elle est au moins autant culturelle, sans parler de la musique mondiale, ni d'Internet. La Coupe du monde de football fut cet été un événement, et le troisième événement, me semble-t-il, symbolique de la mondialisation, puisqu'elle a réuni 2 milliards d'hommes et de femmes, un tiers de l'humanité, au même moment, devant leur poste de télévision, pour applaudir la finale. Cela aussi, me semble-t-il, constitue une forme d'unité planétaire. Le second diagnostic concerne la France elle-même. La documentation française a publié récemment un rapport intitulé « La France face à la mondialisation ». On y lit « La France est à l'avant-garde de la mondialisation. Elle est parmi les pays les plus ouverts aux investissements. Les capitaux étrangers possèdent 45% du capital des sociétés du CAC 40. Ce sont les grandes sociétés de la Bourse de Paris, ce qui est beaucoup plus que dans les autres pays. De plus, en ce qui concerne les investissements directs étrangers sur notre territoire et les créations d'activités qui en résultent, la France est le deuxième pays du monde. Aux États-Unis, un salarié sur 20 seulement travaille dans une filiale industrielle de groupe étranger. En France, c'est un salarié sur 7, soit 15% des emplois, et plus que l'effectif de l'ensemble des grandes entreprises du CAC 40 qui travaillent dans des filiales de sociétés étrangères. En outre, 15 entreprises françaises figurent dans le groupe des 100 premières entreprises transnationales non financières. Nous sommes, à cet égard, avec nos 15 entreprises, loin devant le Japon, 9 entreprises, même devant la Grande-Bretagne, 12 entreprises, et devant l'Allemagne, 13 entreprises. Mais enseigne-t-on cela à nos étudiants? Non. Ce qu'on enseigne trop souvent dans les lycées et même encore parfois dans les universités, c'est plutôt le recyclage des vieux mythes protectionnistes qui explique ce paradoxe fondamental. D'une part, dans bien des domaines, la France est à l'avant-garde de la mondialisation, et d'autre part, elle est aussi à l'avant-garde de la contestation de la mondialisation. Pour l'opinion publique, celle-ci se confond d'ailleurs souvent avec le capitalisme, l'économie de marché et le fameux ultralibéralisme, sans parler de la crainte que l'Europe ne soit le cheval de Troie d'une mondialisation qui serait elle-même le masque de l'hégémonie américaine, alors que seule, précisément, une Europe puissance serait de nature à nous en affranchir. De même, les Français sont les champions du pessimisme en ce qui concerne l'effet de la mondialisation sur l'emploi. Sur un plan plus général, l'Université du Maryland a publié récemment un sondage international portant sur la question suivante. Le système de la libre entreprise et de l'économie de marché est-il le meilleur pour l'avenir? Eh bien, mesdames, messieurs, mes chers amis, le pays qui se classe en tête des réponses positives, le pays, je le répète, pour lequel la libre entreprise et l'économie de marché sont les meilleurs pour l'avenir, ce pays, aujourd'hui, c'est la Chine communiste, avec 74%, et le dernier de ces pays, sur 20, c'est la France, avec 36% seulement. La France, par conséquent, qui doute complètement de l'avenir de la libre entreprise et de l'économie de marché. Il ne faut certes pas sous-estimer les risques de la mondialisation, notamment en matière de délocalisation des emplois, et je m'en garderai bien. Il est néanmoins urgent surtout de ressaisir l'opinion française en l'informant aussi des succès de la France dans cette même mondialisation. Ce sera notamment le sujet d'un important colloque que l'Académie organise le 30 janvier prochain dans le cadre de la Fondation Saint-Gerre-Polignac. C'est aussi l'objet de l'un des livres que vous venez d'applaudir pour le prix que l'Académie a tenu à lui décerner. Ce livre de Nicolas et Guéric Jacquet, écrit au moment où la mode décliniste battait son plein, ce livre est intitulé « La France qui gagne ». Pour ressaisir l'opinion publique, la première chose à faire consiste en effet à mettre en valeur les meilleures ressources humaines de notre pays. Je ne vous en donnerai pas d'exemple, mais je vous donnerai un contre-exemple, et un contre-exemple qui vient de Chine. Le gouvernement chinois a décidé de placer ses plus hautes ambitions en matière d'enseignement supérieur de la gestion des entreprises dans l'université de Tsinghua à Pékin. Il s'agit tout simplement de pouvoir, à terme, concurrencer Harvard et Oxford. À cet effet, un conseil international a été constitué qui regroupe à l'échelle mondiale les plus hautes personnalités entrepreneuriales. Deux Français en font partie. Carlos Ghosn, le président de Renault-Nissan, et Claude Bébéard, le président d'AXA. Eh bien, paradoxe stupéfiant, aucune institution universitaire française n'a fait appel ni à l'une ni à l'autre de ces deux personnalités françaises. La seconde de ces deux personnalités, je l'ai dit tout à l'heure, est Claude Bébéard, créateur de l'Institut Montaigne, un laboratoire d'idées particulièrement actif dans les débats de société en France. La dernière publication de l'Institut Montaigne, la voici. Elle est intitulée « Comment fait la France quand elle gagne ?» Ce livre commence et se termine par deux cas d'école au double sens du mot. Le premier chapitre est consacré à une petite école d'ingénieurs, le SPCI. Je parierais qu'il n'y a pas une majorité à voir exactement ce que c'est que l'ESPCI. Eh bien, c'est l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, qui, figurez-vous, par son dynamisme, ses initiatives et sa capacité d'adaptation, peut s'enorgueillir d'être l'alma mater de pas moins de 5 prix Nobel, dont nos deux confrères de l'Académie des sciences, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak. C'est le premier chapitre du livre de l'Institut Montaigne. Et le dernier chapitre de ce même livre concerne, lui, un invité encore bien plus inattendu. Il s'agit en effet du lycée d'Épinay-sur-Seine, situé dans une zone dite sensible du 9-3, comme on dit aujourd'hui, et qui semblerait, a priori, devoir apporter de l'eau au moulin des pessimistes et des déclinistes que j'évoquais tout à l'heure. Or, grâce à l'effort et à la motivation de tous, à commencer par le corps enseignant de ce lycée a su, en quelques années, donner à ses élèves confiance en eux-mêmes, en ouvrant notamment aux meilleurs d'entre eux des perspectives de réussite personnelle et d'ascension sociale dont auparavant il paraissait devoir être exclu. C'est pourquoi, en terminant, je voudrais vous présenter, non pas comme par le passé, les jeunes filles de la Légion d'honneur, mais conduite par leur proviseur, une délégation d'élèves et de professeurs du lycée d'Épinay-sur-Seine.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales et politiques sous la coupole le lundi 20 novembre 2006 sous la présidence d'André Damien.